VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à VOA Afrique. Au micro, Nicolas Pineau et Salwa Jaafari à la une ce soir de notre émission.
Retour au calme au Burundi, un calme précaire. Les manifestants anti-Nkurunziza continuent de se heurter aux forces de la police.
Savoir si véritablement ils ont atteint leur objectif ou pas. Ce que je sais, c'est que tout simplement, ils appelaient, au départ, ils nous disaient qu'ils allaient transformer le Burundi en Burkina Faso. On l'a pas vu.
La France diminue encore les effectifs de la force Sangari. S'il ne restera que 900 militaires français en Centrafrique d'ici la fin du mois.
Les Nations Unies s'inquiètent du sort des réfugiés maliens en Mauritanie.
On rentre dans la période de la soudure, il n'y aura pas suffisamment de vivres à distribuer alors que c'est le moment de besoin le plus aigu au cours de l'année.
L'Iran et le groupe du 5+1 de nouveau autour de la table des négociations à Vienne.
Comme tous les matins, comme tous les soirs, vos rendez-vous habituels, la Minute Écho et le Journal des Sports. Large victoire du Nigeria à la Coupe du Monde des moins de 20 ans en Nouvelle-Zélande. Mais tout d'abord sur VOA Afrique, le journal.
Au Burundi, calme relatif ce jeudi alors que la police burundaise a presque réussi à étouffer quasiment toute manifestation hostile au président Pierre Nkurunziza dans les quartiers de Bujumbura. Les manifestants ont tenté de se rassembler dans les quartiers de Ngagara et Sibitoke, mais ils ont été immédiatement dispersés par les tirs de la police.
Et sur le plan politique, on attend toujours la publication du nouveau calendrier électoral. Il semble que l'on s'oriente vers un couplage des élections locales et législatives, selon Willy Nyamitwe, conseiller à la présidence burundaise. La date du 15 juillet devrait être retenue pour ces scrutins, affirme-t-il à VOA Afrique. On reparle du Burundi plus longuement dans la deuxième partie de notre émission.
En Centrafrique, l'armée française amorce le retrait progressif de Sangaris. Les effectifs de l'opération militaire seront revus à la baisse d'ici la fin du mois de juin 2015. Rappelez-vous, Sangaris avait été déclenché en 2013 sous mandat de l'ONU pour stabiliser la situation dans le pays. Alors en proie au chaos. Félix Yepa-Sizembrou nous en dit un peu plus.
En effet, le contingent de Sangaris passera de 1700 à 900 soldats fin juin. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole de l'armée française, le colonel Gilles Jarron. Ce retrait, a-t-il souligné, s'inscrit dans un processus de désengagement amorcé il y a plusieurs mois. Rappelons que le président François Hollande, en recevant la chef de la transition Catherine Samba-Panza le 27 mai dernier à l'Élysée, a salué le déploiement effectif des forces des Nations Unies qui allait permettre la diminution progressive des troupes françaises. L'opération Sangaris a été déclenchée en 2013 sous mandat de l'ONU pour stabiliser le pays en proie à un cycle de violence intercommunautaire opposant les milices anti-Balaka à l'ex-coalition Séléka de Michel Dotodia au lendemain du renversement du président François Bozizé. Signalons que la présence de Sangaris en Centrafrique a été entachée par des accusations de viol commis sur des enfants par des soldats français entre fin 2013 et début 2014. Paris et l'ONU ont demandé l'ouverture d'une enquête sur cette affaire dans laquelle 14 soldats ont été mis en cause.
Au Kenya, 5 suspects dans l'attaque contre l'université de Garissa ont été mis en examen ce jeudi devant un tribunal de Nairobi pour actes terroristes. Ce carnage revendiqué par les Shabab somaliens avait fait 148 morts en avril dernier. Les suspects ont été renvoyés en détention jusqu'à jeudi prochain. Ils nient les accusations et affirment avoir été torturés lors de leur détention.
Près d'une centaine de personnes au moins sont mortes à Accra dans l'explosion d'une station-service. De nombreuses victimes étaient venues s'abriter alors que des pluies torrentielles se sont abattues hier soir sur la capitale ghanéenne. Eddie Sango.
Les autorités ont confirmé l'accident jeudi à Accra. La cause reste inconnue. L'explosion a provoqué un incendie qui s'est propagé sur des bâtiments à proximité du cercle Kwame Nkrumah dans les centres de la capitale ghanéenne. Elle a eu lieu alors que de nombreuses personnes étaient rassemblées à la station de carburant pour échapper aux inondations. Les hôpitaux locaux ont pris autant de corps et de blessés qu'ils n'en pouvaient accueillir. La recherche d'autres victimes s'est poursuivie. Le nombre de morts est susceptible d'augmenter. Les inondations ont entravé les opérations de secours. Le président John Mahama s'est rendu sur les sites ainsi que les maires d'Accra et un membre du Parlement, M. Mahama, a déclaré aux journalistes que cette lourde perte en vie humaine est catastrophique et a promis qu'un tel incident ne se répétera pas.
Les élections présidentielles et législatives au Niger seront transparentes en 2016. C'est ce qu'assure le président Mahamadou Issoufou, alors que l'opposition accuse la Cour constitutionnelle qui valide les candidatures d'avoir fait allégeance au pouvoir en place. Le recensement des électeurs va durer 3 semaines dans le pays. En 2011, lors de la dernière élection présidentielle, près de 6 700 000 électeurs avaient été inscrits, alors que la population du Niger est aujourd'hui estimée à 17 millions d'habitants.
Mahamadou Issoufou, qui a rencontré hier soir son homologue nigérian, Mahamadou Bouhari. Ce dernier a rendu visite ce jeudi à N'Djamena, Idriss Déby, puisque le Tchad participe à la force régionale qui lutte contre Boko Haram.
Et le bilan de l'explosion survenue hier à Maïdougouri, la plus grande ville du nord-est du Nigeria, s'élève désormais à 18 morts. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi à l'agence France-Presse Damlani Adjakouta, un milicien qui lutte contre Boko Haram. Des explosifs le semblent avoir été déposés près d'un garage en face d'un bâtiment militaire. Et plusieurs mécaniciens font partie des victimes.
Et puis, toujours au Nigeria, un couple de touristes français a été agressé par des voleurs dans l'état d'Ebonyi, dans le sud-est du pays. L'homme a été tué, son épouse a été blessée. L'ambassade de France à Abuja déplore ce crime purement crapuleux.
En Côte d'Ivoire, le procès d'officier jugé pour des exactions durant la crise post-électorale de 2010-2011 a été reporté dès son ouverture ce jeudi à la semaine prochaine. Les précisions de Bagassikoura.
Oui, les commandants Jean-Noël Abeye, Anselme Seka Yapo, dit Seka Seka et 7 autres officiers sont traduits devant le tribunal militaire dans le cadre d'exactions commises durant la crise post-électorale de 2010 à 2011 qui a fait plus de 3000 morts. Selon l'AFP, le commandant Yapo, ancien chef de la sécurité rapproché de l'ex-première dame Simone Gbagbo, est accusé d'assassinat, meurtre, blanchiment d'argent aux fins d'achat d'armes, recrutement de mercenaires, entretien de milices. Cet officier fut un des hommes les plus craints de Côte d'Ivoire, décrit par ses détracteurs comme l'un des chefs des escadrons de la mort et en sévit sous l'ancien président. Le commandant Abeye, lui, dirigeait le plus grand camp de gendarmerie du pays, basé à Abidjan. Il répond des chefs de désertion à l'étranger et complot selon le parquet militaire. Le tribunal a renvoyé la procédure à mardi prochain pour permettre à tout le monde d'être en état, a annoncé le juge Tahirou Dembélé. 2 des 7 accusés appelés à la barre ne bénéficiant pas de défenseurs.
8 personnes ont comparu aujourd'hui devant un tribunal du sud de la Tanzanie pour avoir coupé la main d'une femme albinos. La victime de 30 ans, mère de 4 enfants, a été attaquée en mai et continue à être traitée à l'hôpital, a révélé le procureur Angera Fimbo.
Et puis Amena Gharib Fakim a été officiellement élue ce jeudi par l'Assemblée nationale mauricienne comme nouvelle présidente de l'île, devenant ainsi la première femme à occuper cette fonction honorifique dans l'histoire du pays.
Et puis, dans le reste du monde, les négociations sur le programme nucléaire iranien ont repris aujourd'hui à Vienne avec l'espoir de sceller le 30 juin un accord définitif entre le groupe du 5+1 et Téhéran. Les points de blocage sont multiples, notamment la question de l'inspection des sites militaires iraniens. Jacques Aristide.
Mais on va en parler dans quelques secondes après la pause.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Voilà, et comme Salwa le disait, Salwa, on reparle de l'Iran.
Voilà, donc comme je le disais, dans le reste du monde, les négociations sur le programme nucléaire iranien ont repris aujourd'hui à Vienne, avec l'espoir de sceller le 30 juin un accord définitif entre le groupe du 5+1 et Téhéran. Les détails avec Jacques Aristide.
Alors, on a un petit problème en régie. On va continuer ce journal. On va essayer de revenir ultérieurement sur l'Iran. On va parler maintenant de cette réunion à Alger des responsables libyens qui ont appelé aujourd'hui à la formation dans les plus brefs délais d'un gouvernement d'union nationale en Libye où 2 parlements et gouvernements ennemis se disputent le pouvoir. Ils appellent les partis concernés à faire des concessions pour parvenir à un accord politique global, équilibré et consensuel. Les pourparlers, qui rassemblaient 27 représentants de différentes factions, ont duré 2 jours en présence du médiateur de l'ONU.
Au Proche-Orient, ces nouvelles frappes israéliennes sur les cibles militaires dans la bande de Rafah. Tôt ce matin, l'offensive n'a pas fait de victimes. Tel Aviv dit agir en représailles à de nouveaux tirs de roquettes palestiniennes revendiqués par les partisans de l'État islamique à Jérusalem, un groupe récemment apparu à Gaza.
En Syrie, le groupe État islamique poursuit sa progression. Les djihadistes étaient aujourd'hui aux portes de Hasaké au nord-est de la Syrie, malgré la poursuite des raids de la coalition internationale qui ont déjà tué 10 000 djihadistes. Et puis non loin de là, en Irak, une frappe de la coalition menée par Washington a détruit l'un des plus importants sites de fabrication de voitures piégées du groupe terroriste.
L'Union européenne a dénoncé ce matin l'escalade des combats la veille dans l'est de l'Ukraine, estimant qu'il s'agit là de la plus grave violation du cessez-le-feu instauré en février qui risque d'enclencher une nouvelle spirale de violence. Fin de citation. Deux violents combats ont éclaté dans la nuit de mardi à mercredi à l'ouest de Donetsk. Ces affrontements ont fait 24 victimes en 24 heures, selon des bilans des autorités ukrainiennes et des séparatistes.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Tout de suite, la Minute Écho avec Idrissa Seydoudia.
Le Fonds monétaire international recommande aux autorités de Kinshasa d'exploiter le vaste potentiel fiscal pour accroître les recettes intérieures de la République démocratique du Congo afin de dégager des marges budgétaires à l'approche des élections coûteuses, selon un communiqué reçu jeudi par l'AFP. Le coût de tous ces scrutins a été chiffré à 1,1 milliard de dollars, alors que le budget de l'État s'élève à 9 milliards de dollars pour 2015. Madagascar n'atteindra pas le rebond de croissance prévu cette année, compliquant la donne pour le président malgache, déjà privé de majorité parlementaire et confronté à un vote de destitution, selon une note publiée jeudi par le Fonds monétaire international. Taïwan s'est engagé à accompagner la recherche agricole burkinabé en renforçant le programme national de recherche agricole et le développement des variétés améliorées, a appris l'agence APA auprès du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation.
Merci beaucoup, c'était Idrissa Seydoudia pour la Minute Écho. Place au sport à présent. Dans cette émission, nous retrouvons Timothée Donogmaï. Bonsoir Timothée.
Et oui Nico, ce jeudi, l'Allemagne et le Brésil ont validé leur billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde.
Alors Timothée, on parle football, la Coupe du Monde des moins de 20 ans, c'est en Nouvelle-Zélande.
Si la National Mannschaft a aisément disposé de l'Ouzbékistan 3-0 à Christchurch, le Brésil a connu davantage de difficultés pour se défaire de la Hongrie 2-1. La grosse surprise de la journée est à mettre au crédit des Fidji, vainqueur 3-0 du Honduras. Les Océaniens ont obtenu avec panache leur premier succès dans une compétition FIFA. Les insulaires ont été vainqueurs 3-0 du Honduras. Les Océaniens ont obtenu avec panache leur premier succès dans une compétition FIFA. Les insulaires ont fêté cet événement historique dans l'euphorie. Ils vont cependant devoir rapidement se Les insulaires ont fêté cet événement historique dans l'euphorie. Ils vont cependant devoir rapidement se reconcentrer car la troisième et dernière journée pourrait même leur donner l'occasion d'accéder aux huitièmes de finale. Enfin, le Nigeria a largement dominé la Corée du Nord dans le groupe E 4-0. Les Asiatiques attendent donc toujours leur premier succès en Coupe du Monde des moins de 20 ans.
Football cette fois, sur le plan judiciaire, le scandale de la FIFA et de nouvelles révélations.
Chuck Blazer, ancien haut dirigeant de la FIFA, a reconnu le versement de pots de vin du Maroc et de l'Afrique du Sud lors des processus d'attribution des mondiaux 1998 et 2010. Nouvel épisode d'un feuilleton déjà riche de la démission de Joseph Blatter, désormais dans le viseur de la justice américaine. La justice américaine qui soupçonne aussi le Trinidadien Jack Warner, alors président de la CONCACAF, d'avoir empoché 10 millions de dollars en échange de 3 voix en faveur de l'Afrique du Sud lors du vote pour l'attribution du Mondial 2010. Ce même Warner affirme aujourd'hui détenir des documents prouvant l'implication de la FIFA dans les élections législatives 2010 à Trinité et Tobago, son pays.
On part à Paris, le tournoi de tennis du Grand Chelem, Roland-Garros.
Place aux demi-finales dames ce jeudi, la Tchèque Lucie Safarova a réalisé un rêve à 28 ans en se qualifiant pour la première fois en finale d'un tournoi du Grand Chelem après son succès contre la Serbe Ana Ivanovic. Victoire possible 7-5-7-5 en 1h52 minutes dans un match où la crispation a pris le pas sur la qualité de jeu. Serena Williams affronte en ce moment même la Suissesse Baczynski. À suivre demain chez les hommes, Joe Wilfried Tsonga. À suivre demain chez les hommes, Joe Wilfried Tsonga contre Stan Wawrinka et Novak Djokovic contre Andy Murray.
Et enfin, Timothée, la grande finale NBA, c'est la nuit prochaine.
Pour la première fois de son histoire, Cleveland peut inscrire son nom au palmarès NBA à partir de jeudi. Mais Golden State, qui a attendu 40 ans pour disputer une nouvelle finale, a une autre idée en tête.
Merci beaucoup, c'était Timothée Donangmai pour le Journal des Sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bonsoir à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui, la deuxième partie de notre émission Saloua.
Au Burundi, les élections législatives et locales déjà reportées une fois n'auront donc pas lieu ce vendredi, conformément aux recommandations des chefs d'État de la sous-région. Un report de 6 semaines jusqu'à la mi-juillet est plus que probable si la pression de la rue semble étouffée au Burundi. Au-delà des frontières, la communauté internationale, européenne et américaine en tête, ne désespère pas de faire renoncer le président Nkurunziza en tête d'une enquête d'un troisième mandat. Pression inutile, comme nous l'explique le ministre burundais des Affaires étrangères, Nicolas Pineau, adjoint à la Nia Mitwe.
Les relations internationales, en tout cas dans la gestion des affaires africaines, c'est surtout les communautés économiques régionales qui prennent généralement l'initiative et qui sont, je dirais, au devant dans la résolution de ces problèmes. Et ce qui s'est fait dans le passé, qui s'est fait d'ailleurs dans d'autres régions, pour d'autres pays, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. La communauté des États de l'Afrique de l'Est a pris la question en main et est sortie avec une série de recommandations que nous sommes en train de mettre en œuvre. Maintenant, il appartient à chaque parti au Burundi de mettre en œuvre de bonne foi les recommandations qui ont été émises par les chefs d'État. C'est ainsi qu'on pourra s'en sortir.
On connaît aujourd'hui la position des chefs d'État de la sous-région. Que dites-vous aux Européens et aux Américains qui continuent de contester l'idée d'un troisième mandat de Pierre Nkurunziza ? Parlez-vous d'ingérence ?
Je ne serai pas si direct, mais je pourrais simplement dire que s'ils veulent que les choses aille de l'avant, il faut donner des chances à cette initiative régionale, c'est clair.
Est-ce que selon vous, la question du troisième mandat ou non de Pierre Nkurunziza est désormais derrière vous ?
Bon, comme quelqu'un qui a participé au sommet, je ne vois pas vraiment que ce soit une question qui devrait être sur la table. C'est vrai que certains voudraient faire un peu plus devant autour de la question, mais en ce qui me concerne, il me semble bien que les chefs d'État ont dit qu'il y avait deux options. L'option 1 qui disait que la candidature devait être retirée, cette option n'a pas été retenue. Et celle qui disait que la candidature devrait être maintenue, cette option a été maintenue. Donc je pense que pour moi, les choses sont très claires. Maintenant, il y a une série de conditions qui doivent être remplies pour qu'on puisse parler des élections, je dirais, inclusives et transparentes. Et c'est dans le cadre du dialogue qu'on va régler toutes ces questions, notamment aussi durant cette période de report, la participation, l'engagement actif de la région pour aider toutes les parties prenantes burundaises à régler toute question qui serait pas encore résolue jusqu'ici. Mais en tout cas, celle-là ne me semble pas être en tête de liste.
Vous avez le sentiment que la crise est passée ou que le Burundi est toujours isolé sur la scène internationale ?
Isolé, je n'irai pas jusque-là. Mais maintenant, la question devrait être posée aux gens qui ont appelé aux manifestations pour faire le bilan, pour savoir si véritablement ils ont atteint leur objectif ou pas. Ce que je sais, c'est que tout simplement, ils appelaient, au départ, ils nous disaient qu'ils allaient transformer le Burundi en Burkina Faso. On ne l'a pas vu.
Voilà, c'était Alain Nyamitwe, ministre burundais des Affaires étrangères, joint à Bujumbura.
La Voix d'Amérique au Burundi, sur les ondes de la radio publique africaine, 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays. Et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
Au Sénégal, affaire Tchenseg, du nom du célèbre chanteur chez qui les policiers ont découvert en milliards de francs CFA de faux billets en euros et en dollars. La star est en prison depuis mardi dans la capitale sénégalaise. Le tribunal de Dakar l'accuse entre autres d'association de malfaiteurs et de falsification de contrefaçons. Pour en savoir plus, Idrissa Seydoudia a contacté à Dakar Mamadou Marndiaye, directeur du journal Le Témoin et de la station Top FM.
Il faut dire que Tchenseg, c'est l'un des plus grands chanteurs du Sénégal de ces 20 dernières années. C'est une star adulée au même titre que Youssou N'Dour, dont il est d'ailleurs un grand rival. Et donc, il y a une dizaine de jours, le mercredi 27 mai plus exactement, il a été interpellé par une unité d'élite de la gendarmerie nationale qui s'appelle la section de recherche, qui a fait irruption dans son domicile et y a découvert donc de l'argent, de la fausse monnaie pour une valeur de 42 milliards de francs CFA en devises étrangères, c'est-à-dire en dollars et en euros. Et il a été donc interpellé avec un Malien du nom de Alaïdji Diteyi, tandis qu'un troisième complice présumé, un Gambien du nom de Cissé, réussissait à prendre la fuite. Alors, au cours de leur perquisition, donc, les gendarmes ont également découvert au domicile du Malien une quantité impressionnante de billets, de banque également, de fausses coupures en euros, en dollars, et également du matériel présumé ayant servi à reproduire cette fausse monnaie. Bon. Et l'affaire défait d'autant plus la chronique que vraiment les montants en jeu sont colossaux, puisqu'on fait état d'au moins 42 milliards de francs CFA, presque 50 milliards de francs CFA. Et donc, depuis lors, effectivement, c'est l'affaire qui tient la une des journaux, des radios, des télévisions, tout le monde en parle.
Alors, Mamadou Oumar, comment est-ce que John Seck justifie la présence de cet argent chez lui?
Il a raconté aux enquêteurs une histoire à dormir debout, puisqu'il a dit que cet argent lui a été remis par des Gambiens parce que, comme devant représenter les cachets d'une tournée internationale qu'il devait donc effectuer pour le compte de ses promoteurs, de ses soi-disant promoteurs gambiens, qui lui aurait donc payé tout cet argent pour servir de cachet aux prestations qu'il devait effectuer pour eux. Bien entendu, cette version n'a pas emporté l'adhésion des gendarmes, qui n'ont guère été convaincus et qui lui ont demandé de produire le contrat qu'il aurait signé avec ses promoteurs gambiens. Il a été dans l'incapacité de produire le moindre contrat, et pour cause.
Le journaliste sénégalais Mamadou Oumar Ndiaye, joint à Dakar.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. La FIFA pourra-t-elle redorer son blason après l'annonce choc du départ de Sepp Blatter de la présidence? Son successeur pourra-t-il faire le grand nettoyage après les graves accusations de corruption? Comment vous, en Afrique, réagissez à cette démission surprise de Blatter qui a eu le soutien inébranlable du continent? Un mondial alternatif hors FIFA verra-t-il le jour, même après ces développements inattendus? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TU.
En Mauritanie, le PAM et le HCR tirent le signal d'alarme. Ils ne disposent plus du financement nécessaire pour venir en aide aux réfugiés maliens du camp Berra. Ce camp qui accueille 50 000 réfugiés a été ouvert en 2012 suite au conflit au nord du Mali. Claire Morin-Gibourg a joint Bruno Guédo, représentant du HCR.
Effectivement, nous avons tiré la sonnette d'alarme parce que nous voyons que l'attention des bailleurs, l'attention de la communauté internationale s'estompe au fur et à mesure que cette crise malienne se prolonge et surtout que la présence des réfugiés au camp de Mbeira devient une présence prolongée dans le temps. On vient de rentrer dans la quatrième année, je pense, de cette crise. Il nous faut garder la garde haute pour deux raisons. Une, parce que la situation est loin d'être stabilisée au Mali et que nous venons encore dans les dernières trois semaines de recevoir 300 nouveaux arrivants du fait de l'insécurité croissante sur le terrain. Et deux, parce que le fait d'avoir atteint les standards minimums humanitaires, de traitement humanitaire de ces réfugiés, atteint à peine d'ailleurs et après tant d'efforts, ne signifie pas que nous pourrions dormir sur les lauriers. Si on baisse la garde, on pourrait retomber encore en dessous. Et je parle en dessous de ce standard minimal.
Quelle est la situation au camp de Mbeira actuellement, la situation humanitaire?
Il y a 50 000 réfugiés qui se trouvent dans un état minimal d'assistance, qui se trouvent dans une situation de pauvreté à 74% des résidents du camp. Ils sont considérés comme pauvres ou extrêmement pauvres, qui ne peuvent pas encore rentrer au pays
et qui risquent de rester assez longtemps en Mauritanie. La nutrition, c'est une inquiétude très importante parce qu'il y a eu une sécheresse prolongée l'année passée, il y a eu très peu de pluie. On rentre dans la période de la soudure, c'est-à-dire que c'est la période des vaches maigres. Entre les récoltes sont finies, les escortes de nourriture sont finies, les nouvelles récoltes ne sont pas encore arrivées. C'est les trois mois clés, juillet, août et septembre. Traditionnellement, dans les hauts de Charlie en Mauritanie, toutes les populations pendant la soudure tombent dans un état de malnutrition chronique. Et le risque est que cette situation puisse se répandre aussi aux réfugiés parce qu'il n'y aura pas suffisamment de vivres à distribuer alors que c'est le moment le plus aigu, de besoin le plus aigu au cours de l'année.
Bruno Guédo, représentant du Haut Commissariat pour les réfugiés en Mauritanie.
Retour à présent sur l'arrivée au pouvoir de Muhammadu Buhari à la tête du Nigeria, alors qu'il a rencontré cette semaine ses homologues du Niger et du Tchad, pays avec lesquels il lutte contre Boko Haram. Selon les analystes, l'investiture du président donne aussi aux États-Unis et au Nigeria une chance de repartir sur de nouvelles bases après des relations plutôt tendues avec son prédécesseur Goodluck Jonathan. Les précisions de Lionel Game.
Dans une vidéo publiée en ligne cette semaine, on a vu des combattants de Boko Haram arborant apparemment le logo de l'État islamique d'Afrique de l'Ouest. Et rien que de mensonge, affirme ce militant qui demande que les pays combattants son groupe aient eu de gros succès dans leur tentative de neutraliser Boko Haram. Cette vidéo a été publiée quelques jours seulement avant l'investiture du président Muhammadu Buhari, qui s'est juré de faire de la lutte contre le groupe islamiste nigérien sa priorité des priorités. Et l'ancien général a discuté de cette question avec le secrétaire d'État américain John Kerry, qui était présent à sa prestation de serment. Pour J. Peter Pham de l'Atlantic Council, il est important que Washington ne permette pas le pourrissement de la situation qui prévalait sous le précédent régime nigérien. Je m'attends à ce que les États-Unis agissent rapidement et envoient des conseillers pour aider le Nigeria, par exemple dans les domaines du renseignement et de la logistique. Le politologue américain rappelle que le Nigeria n'est pas un pays pauvre, malgré ses problèmes économiques actuels. Il ne veut pas de charité, mais aimerait avoir la possibilité d'acheter lui-même assez d'équipements et autres pour relever ses défis. Pour sa part, l'analyste Mohamed Rahim s'est exprimé sur la question au programme Africa 54 de la VOA. Monsieur Rahim insiste sur l'assistance technique et explique que les États-Unis et les autres puissances mondiales devraient se concentrer sur l'aide aux communautés frappées de plein fouet par les attaques et les enlèvements de Boko Haram. Au département d'État américain, un haut responsable a déclaré lors d'un briefing que les États-Unis espèrent faire plus pour aider le Nigeria à combattre Boko Haram, y compris l'entraînement d'un bataillon cette année.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, African Music. Et bien sûr, nous aurons l'occasion d'avoir l'artiste Desmond.
Salut, ici c'est Desmond. Retrouvez-moi ce jeudi à 20h temps universel dans RM Show de VOA Afrique avec Roger Montou.
Vous l'avez très bien entendu, l'artiste Rwando Burundais Desma sera notre invité dans RM Show ce soir. Vos questions sur notre groupe Facebook Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Envoyez-nous aussi vos réactions par SMS au plus 225-58-9285. RM Show, c'est ce soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le rappel des titres sur VOA Afrique au Burundi, calme relatif ce jeudi alors que la police burundaise a presque réussi à étouffer quasiment toute manifestation hostile au président Pierre Nkurunziza dans les quartiers de Bujumbura.
Et puis la France diminue encore les effectifs de la force Sangaris. Il ne restera que 900 militaires français en Centrafrique d'ici la fin du mois.
Au Kenya, 5 suspects dans l'attaque contre l'université de Garissa ont été mis en examen ce jeudi devant un tribunal de Nairobi pour acte de terrorisme.
Près d'une centaine de personnes au moins sont mortes à Accra dans l'explosion d'une station-service.
Et puis les élections présidentielles et législatives au Niger seront transparentes en 2016. C'est ce qu'affirme le président Mahamadou Issoufou. Il s'est exprimé hier soir à la télévision nationale.
Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Lionel Gaïman, Nicolas Pinault et Salwa Jafari à la présentation.
Excellente soirée à tous. Avant de se quitter, saluons Julio Baleke. Il est à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Ali Mouba à Conakry, en Guinée. Comme eux, retrouvez-nous sur Facebook ou notre site internet voaafrique.com.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.